Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Voici la Terre à Feu, une famille moderne de la...
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Oui. Bienvenue pour ce nouveau podcast intitulé « Les petites boîtes de pensées fermées ». Dans ce nouveau podcast composé de 3 épisodes différents, nous allons parler des raisons qui peuvent nous enfermer dans des petites boîtes de pensées fermées et qui ne nous permettent plus une certaine idée du vivre ensemble. Sur base de 2 témoignages de jeunes rencontrés en IPPJ, nous questionnerons la notion de valeur familiale notamment et l'influence de celle-ci dans la construction identitaire d'un adolescent. Nous aborderons aussi la question des mécanismes de ces petites boîtes de pensée fermées qui font mal aussi bien à celui qui en détient la clé qu'à ceux qui la lui procurent. Et nous élaborons quelques pistes de réflexion sur le travail social notamment. Pour nous y aider dans cette réflexion, j'ai fait appel à 3 intervenants. Dounia, jeune éducatrice de 20 ans, toujours aux études. Nolan, conseiller philosophique à l'IPPJ de Wautier-Bren et qui a très bien connu les 2 jeunes qui témoignent. Et Annette, une prof à la retraite de 80 ans. Bonne écoute et bonne réflexion. Tu me disais que papa, avec toi, il était quand même assez violent aussi. Il te frappait beaucoup. Est-ce que pour toi, ça rentre dans l'attitude, dans l'habitude parfois des pères de corriger leur enfant? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui était normal?
Oui, moi je vois ça normal. Enfin, moi je ne le ferais pas. Mais je pourrais comprendre en fait. Mais peut-être pas accepter la façon dont ils font, mais je pourrais comprendre. Par exemple, chez nous, je ne vous cache pas, 80% frappent leur enfant. Pas les filles. Les garçons, pour les corriger, pour les intimider, pour ne pas recommencer, tout ça en fait. Ce n'est pas des coups de poing, des coups de pied, non. C'est de temps en temps une claque, une baffe, tout ça. Et des fois un coup de ceinture pour intimider juste. Mais ce n'est pas abusif en fait.
Mm-hmm.
Un homme chez nous se doit de gérer ses émotions en fait, pour ne pas donner une image de faible devant ses enfants ou sa femme. Puisque ça pourrait détériorer cette image de protecteur.
Quel regard tu portes sur ton papa maintenant?
De son emprisonnement ou de son histoire?
De cette rupture dans votre famille.
Ça fait 4 ans. 4 ans et quelques mois, je pense. Il est toujours en prison.
Pour moi, ma famille, ça reste quand même quelque chose d'assez important. C'est une part de ma vie. C'est une part de mes valeurs, une part de mon éducation. C'est moi, quoi. Ma famille, c'est voilà, une part de moi. Mais c'est aussi ma famille qui m'a conduit parfois à des passages plus tristes dans ma vie, à des conduites dangereuses pour moi et pour les autres. Et ma famille, ça a été aussi une étiquette que je portais parce que je viens d'un milieu noble. Et voilà, et dans ces familles-là, on a certains codes à respecter, etc. Donc c'était pas facile non plus à vivre. Et j'avais souvent aussi cette étiquette du petit riche qui a une vie parfaite. C'est quand même une grosse période de ma vie qui m'a conduit dans une dépression.
Parce que si mon père aurait fait tout correctement, je ne pense pas qu'on serait arrivé là. Si on avait reçu je ne dirais pas une bonne éducation, mais une...
Une éducation plus juste et plus...
Meilleure éducation, ouais.
Plus respectueuse aussi au niveau de qui vous êtes, Igor.
Exactement. Je pense que ce sont des blessures qui se cicatriseront qu'avec le temps et l'éloignement du milieu de vie commun, en fait.
Et en quelques mots, si tu devais exprimer les reproches que tu aurais à leur faire, ce serait quels reproches?
Avant l'abandon, enfin le semi-abandon de ma maman, parce que elle se réfugiait dans l'alcool, et donc pour moi, j'avais plus de maman. Quand elle buvait, c'était plus la même personne. Donc c'était comme une sorte d'abandon, ma mère qui me lâchait. De la manipulation de ma part de ma maman aussi. Et puis mon papa, un manque de présence et d'écoute pour ses enfants.
Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de ces témoignages?
Beaucoup de sincérité, beaucoup de recul. J'ai l'impression qu'ils sont assez conscients de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris le temps de bien réfléchir sur leurs actions et savent maintenant expliquer le pourquoi du comment, essayer de comprendre, d'élucider qu'est-ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je les trouve très intelligents et très, très raisonné. Et ils le disent tous les deux, hein, que la famille, est... c'est eux finalement. C'est ce qui leur permet de créer un peu cette identité. Et que finalement, dans cette création d'identité avec la famille, c'est un petit peu... C'est un peu difficile, ça les a mis dans des périodes assez sombres. Et comme ils le disent tous les deux, s'il y avait peut-être eu, on va dire, une présence finalement, comme ils le disaient eux, juste, ben ils ne seraient pas ce qu'ils sont maintenant.
Fortement touché parce que bien entendu les voix me parlent, les deux jeunes que j'ai pu rencontrer. Et ça fait quelque chose, ça fait remémorer des souvenirs, c'est replonger dans leurs problématiques et du coup ça touche personnellement. Ça fait poser des questions sur qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Savoir où ils en sont. Et de me dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment deux personnes intelligentes qui, en tout cas, quand on les a laissées, m'ont laissé croire qu'ils allaient s'en sortir dans la vie, malgré les étapes qu'ils ont rencontrées.
Oui, ça évoque quand même beaucoup des situations très tristes. Mais la façon dont ces jeunes gens en parlent montre déjà que, quelque part, ils ont pu passer le cap. Mais ce qui est mal fait restera mal fait toute leur vie, ça c'est sûr.
Alors on est dans des cadres de vie totalement différents, mais avec un cadre familial très restrictif en fait au final, et qui a été très, comment dire, qui a bâti un peu leur identité. D'un côté, on a la deuxième personne qui parle, qui vient clairement d'un milieu noble. C'est des codes très stricts dont il est très dur de s'extirper. Et de l'autre côté, on a cette forme de violence très systématique, mais qui marque aussi une distance, qui marque aussi cette phrase de la première personne, c'est de dire « Mais en fait, on doit montrer qu'on est des hommes, on ne peut pas montrer nos émotions. » Ça, je trouve que c'est quelque chose quand même de très fort et qui est très présent, en effet, chez nos jeunes. On ne peut pas montrer nos émotions.
Est-ce que l'on peut dire, après l'écoute de ces deux témoignages, que les jeunes vivent une insécurité affective ?
Oui, je pense bien, parce que... Mais déjà, le premier jeune dit qu'il ne fera pas comme son père a fait. Il le fera autrement, il ne tapera pas l'enfant parce qu'il sait que finalement, le fait que son papa l'a tapé, ça l'a blessé profondément et qu'il n'a pas eu l'attention de son père, en tout cas l'attention que lui voulait. Et puis l'autre jeune aussi dit clairement qu'il n'a pas eu l'attention de son papa parce qu'il n'y a pas eu ses moments d'écoute et puis de sa maman aussi. Donc oui, je pense sincèrement que les deux ont vécu les mêmes choses finalement. Cette insécurité et ce manque d'attention des deux parents.
Un des deux jeunes aborde la question des valeurs. Est-ce que c'est un concept difficile à expliquer ?
Difficile à expliquer, mais finalement on le vit pleinement. Dans les valeurs régissent nos vies, régissent ce qu'on fait, nos actions. Mais oui, parce qu'une valeur n'est pas la même pour une autre personne. Juste en discuter, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu difficile.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas pris ce temps-là, justement, avant d'en discuter ensemble. Donc maintenant, il y a un écart qui s'est un petit peu creusé, j'ai l'impression, dans la société.
Dans la société.
En général.
Déjà, qu'est-ce que les valeurs ça change tellement de définition par rapport à quelle position on a dans la société. De ma position, il y a des valeurs que je remets en question du quotidien de certains jeunes que je vois ici. Donc, on est dans un milieu quand même assez masculiniste, de manière générale. Donc on bosse en généralité ici avec des garçons hétéronormés, donc avec des jeunes qui vivent dans ce milieu très masculiniste où il faut mettre en avant le fait qu'on est des hommes, que c'est ça notre puissance, que c'est comme ça qu'on se construit, voilà. Et du coup ici, on peut l'avoir dans la plupart des jeunes qui sont là, quand on parle par exemple, je prends un exemple très concret, c'est quand on parle d'homosexualité, c'est très dur de parler d'homosexualité avec ces jeunes. Si je le prends de manière très neutre, j'ai envie de combattre ça. Mais en fait, ici, on est dans un autre combat. On est dans la compréhension. Qu'est-ce qui amène ces jeunes à être dans le rejet de la différence quand ça touche à leur masculinité ?
Pourquoi quand on touche aux valeurs de quelqu'un, ça peut lui faire mal ?
Parce que c'est ce qu'il est. C'est, si on le touche à ses valeurs, on le touche lui. Du coup, on va un petit peu lui faire douter de ce qu'il est, faire douter de ce qu'il a appris, de ce que ses parents lui ont inculqué. De ce qu'il a compris de la société. Donc on va venir le mettre en doute sur ce qu'il est dans sa globalité. Donc c'est sûr que c'est jamais plaisant de se remettre en question et de se dire peut-être qu'on est dans le faux. On vit cette incertitude et c'est jamais plaisant. Donc je pense que c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut aussi dépasser cette peur-là parce qu'en la dépassant, on ouvre encore un arc beaucoup plus grand de ce qu'on est. Si on n'accepte pas le changement et l'incertitude, je pense qu'on reste bloqué dans quelque chose qui peut nous être néfaste. Alors que si on accepte de se raisonner et d'accepter l'autre et de ce qu'il dit sur nous, je pense qu'on ouvre encore plus le champ des possibles et on évolue beaucoup plus et on est beaucoup plus heureux, je pense.
Est-ce que l'on peut être en doute par rapport aux valeurs que portent nos parents ?
Oui, je pense. Je pense qu'à un moment donné, on est dans le doute. On doute beaucoup, on se pose des questions. Et puis je pense, moi aussi, je pense qu'il y a un moment où on doute et où on fait un choix. Soit d'adhérer complètement et aveuglément aux valeurs de nos parents, sans les questionner. Soit on va dans l'opposé. Ou soit, encore une fois, on prend un peu... de tout, on prend un peu des valeurs de nos parents et on essaye de se construire aussi une identité et de se construire ses propres valeurs. Je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est de prendre un peu de nos parents, mais de les questionner quand même, de pas y aller aveuglément pour pas se brider. Mais il faut aussi essayer de voir autre chose et de se créer ses propres valeurs pour pas se sentir un peu bloqué à un moment donné dans nos vies.
Moi, avec mes enfants... Je vois bien que c'est pas les mêmes du tout valeurs que moi, mais moi je les comprends et je dis qu'ils ont bien raison. Et surtout, mais ça c'est pas toujours facile pour les parents. Moi je voulais être indépendante, la liberté, donc je l'ai passé à mes enfants, moi ça, sans m'en rendre compte même. Ma façon d'être peut-être. Eh bien, par exemple ici à 8 jours, il y a un de mes enfants qui était là. À un moment de la conversation. Qu'on parle aussi, donc, parce que ces gens-là, ils ont eu des enfants, donc ils ont aussi des problèmes avec mes petits-enfants. Et je lui ai encore dit, écoute, il y a une phrase que j'ai toujours dit dans ma vie, les enfants ne doivent rien à leurs parents. Et elle a dit, maman, moi je pense comme toi. Tout ce que les parents ont fait pour les enfants, c'est qu'ils l'ont bien voulu, puisque jusqu'à preuve du contraire, un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Maintenant, est-ce que l'enfant n'est redevable de rien ? Non, par exemple, financièrement, absolument pas pour moi. Les lois sont mal faites d'ailleurs. Mais les parents, ils doivent tout à leurs enfants, tout.
Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de questionner ces valeurs-là, de les discuter notamment avec mes parents. Et heureusement pour moi, ils ont accepté quelques questionnements. Ils ont accepté que je puisse créer, en parallèle de leurs valeurs, mes propres valeurs à moi, et d'en parler et d'en discuter. Mais je suis consciente qu'il y a peut-être dans d'autres familles, dans d'autres milieux, que c'est un peu plus compliqué, et que c'est peut-être ça justement qui bloque ces gens-là et qui les font partir dans des extrêmes finalement. Cette création de frustration. Donc j'en suis consciente.
Ben moi je comprends qu'on n'ait pas les mêmes valeurs tout à fait. Et je vais même dire que personnellement, j'ai une de mes petites filles qui a fait des études. Mais maintenant, elle n'a pas eu d'échec et elle a un diplôme. Mais elle ne fait pas le métier pour lequel elle a eu un diplôme. Et elle fait maintenant ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle est, pour moi, une vieille mamie, elle est dans l'insécurité financière. Mais c'est son bonheur. Voilà. Et ce que je fais, je lui fais confiance. Mais vous savez, là, je vais vous dire une phrase. La façon dont nos jeunes veulent vivre, c'est qu'ils ne misent pas sur la longévité de la vie. Ils visent ce qu'ils ont envie de faire et ça durera ce que ça durera. J'ai des copines de 85 ans. Mais voilà, nous, quand on était jeunes, on avait que comme envie, c'était surtout de travailler, argent, et confort, c'est tout. Le jeune n'a plus ces valeurs-là, parce qu'il a tellement vu de choses, ça je crois que c'est mondial, ça n'est pas uniquement en Belgique, c'est parce que dans le monde dans lequel on vit, les jeunes maintenant voient bien que miser sur l'avenir, c'est trop aléatoire.
Et toi, Dounia, en tant que future éducatrice qui se pose des questions aussi sur l'accompagnement, plus en général, comment rassurer un adolescent qui vit ce genre d'insécurité ?
Mais déjà, de créer une relation de confiance où on peut parler de tout, où on peut Moi, si j'étais éduque de ces deux jeunes hommes-là, j'essaierais de créer une relation de confiance, d'abord, et puis d'en parler avec eux. Vraiment que quand ils me voient, ils se disent avec Dounia, on peut parler de tout et on peut discuter de tout sans avoir honte. Et de vraiment dire tout ce qu'on a dans le cœur et d'en discuter.
D'où viennent cette façon de voir les choses, Dounia?
Mais je pense parce qu'on l'a déjà fait avec moi. À plusieurs reprises, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de rencontrer cette personne avec qui je me dis je peux parler de tout, elle peut me redonner confiance, on peut discuter de tout ce qui se passe, parce que on vit tous des moments difficiles, on est tous dans des moments d'incertitude et se dire qu'il y a une personne là pour nous, et ça aide beaucoup juste de parler. Donc j'ai ce besoin d'être là pour les personnes également, parce qu'on a été là pour moi.
Que retenir de ce premier épisode? Eh bien, je crois que questionner les valeurs qui de toute façon régissent nos vies et nos actions est nécessaire. Que de les questionner au sein de sa propre famille, ça peut être une démarche difficile, mais nécessaire. Que de petits conflits de valeurs permettent de développer son opinion et parfois nous permet d'éviter une certaine frustration. Qu'il faut pouvoir dépasser les incertitudes et l'aléatoire d'une société qui change, ensemble si possible. Bam, bam.
Cet isolement ainsi que cette dépression a fait que je me réfugie dans des idées extrêmes. C'était des idées donc d'extrême droite. J'étais dans une famille où on avait quand même nos préjugés sur les étrangers, etc. Et donc, étant donné que j'étais isolé et que j'étais attaché finalement, je pense comme toute personne qui se radicalise, il est isolé, il développe une haine et quand il trouve quelque chose contre quoi il peut donner sa haine, il s'y rattache et donc c'est un peu son évasion. Et donc, plus je m'isolais, plus je déprimais, j'ai cherché toujours plus pour essayer d'essayer de trouver ce bonheur au final dans cette violence et dans cet extrémisme, quoi.
Tu parlais de sa relation aux difficultés qu'il avait rencontrées en Tchétchénie, à la guerre, mais le parcours aussi où tu te vois refuser l'accès à une sécurité aussi par rapport à aux différents pays où vous êtes installés, à cette non-reconnaissance de droits ou de statut de réfugié ou de mise en danger là-bas. Est-ce que ça n'a pas fragilisé aussi ton papa ?
Ça a effectivement accru un sentiment de rébellion un peu comme ça, envers les Européens, plus précisément. Ça a développé en moi une éducation qui m'a porté préjudice en fait. Je me suis replié sur moi-même. J'avais un profond sentiment d'injustice, tout ça par exemple. J'étais énervé contre les organisations belges en fait, plus tard. Surtout à partir de mes 15 ans, quand mon père est rentré en prison, ça n'a fait qu'accroître en fait mon énervement, tout ça.
Le racisme, ce mot, j'avais quand même des a priori sur des personnes qui n'étaient. Sur des groupes de personnes, des communautés, donc. C'est qualifié comme du racisme. Et la droiture extrême, mais c'est parce que j'étais assez totalitaire. Et pour moi, tout le monde devait suivre un même chemin et personne n'avait droit à l'erreur, quoi.
Je commence à développer ma radicalité. Quand mon père il rentre en prison. Je perds tous mes moyens puisque c'est moi qui suis culturellement le fils le plus âgé et considéré comme le chef de famille quand le père n'est pas là en fait. Et c'est lui qui gère le foyer et qui gère la maman, les frères, les sœurs. Donc quand mon père est rentré en prison, j'ai perdu mes moyens et je partais à gauche, à droite pour nourrir ma famille, pour avoir un toit, tout ça.
Pour organiser tout ça.
Pour organiser tout ça. Et pour ne pas flancher, je me suis réfugié dans la religion, en fait. Je me suis réfugié dans la religion. Mais de manière... Enfin, aujourd'hui, je peux le dire, de manière assez... un peu trop extrême.
C'est toujours la colère qui te motivait, Romain ?
Là, c'était la soif...
D'une forme de vengeance ?
Oui, d'une forme de vengeance et... pour toujours être assasié de la haine des autres, etc. Enfin, je voulais qu'on haïsse ces gens-là. Et donc, voir que des gens le faisaient aussi, ça me rendait, je veux dire, plus heureux, si je puis dire. Et ça me satisfaisait, quoi.
Mais pas forcément pour les mêmes raisons que toi, liées à du harcèlement.
Non, il y en a qui le sont, parce que voilà, ils le sont. Peut-être comme ça, naturellement. Mais moi, je voulais essayer de me trouver une communauté, vu que j'étais rejeté.
Tu crois qu'on peut haïr naturellement les autres ?
Je pense que non, c'est toujours... Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on n'aime pas quelqu'un, à mon avis. Ça peut être sa personnalité, son comportement, ou même les préjugés qu'on a entendus et qu'on était en train de se construire à ce moment-là. On peut adhérer à ces préjugés en pensant que c'est une réalité.
Mais c'est ça le truc, c'est que tu peux ne pas aimer quelqu'un, quelle que soit son origine. Mais qu'est-ce qui fait que tu englobes toute la communauté ?
J'étais en construction et justement, c'est les préjugés, j'y ai adhéré, je me suis dit, c'est vrai, je me fais harceler par des Noirs et des Arabes, c'est tous des méchants, vous voyez, j'ai fait l'amalgame et puis j'ai pris ça pour une réalité, quoi.
Ces deux jeunes-là se sont rattachés à des idées parce qu'ils étaient mal, parce qu'ils étaient malheureux. Et du coup, ils ont adhéré à des idées pour être accompagnés et faisant partie d'un groupe surtout. On se déteste sans se connaître.
On peut faire un petit parallèle avec notre société d'aujourd'hui,
Dounia. Non, mais je pense qu'on est totalement dedans. Je pense que les gens s'évitent beaucoup, se lancent la pierre. Je souffre, c'est parce que c'est à cause d'eux. Je pense qu'on souffre beaucoup en ce moment. On souffre beaucoup et je pense que l'humain a besoin d'expliquer pourquoi il souffre et du coup il va se rattacher à tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ce qui se passe. On veut essayer d'expliquer le pourquoi du comment et on va y trouver un bouc émissaire. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que ce bouc émissaire peut aussi souffrir et lui aussi peut trouver d'autres boucs émissaires et ainsi de suite.
Moi, je veux surtout pointer la force de ces deux jeunes qui prennent la parole. Hein. Donc là, on est face à deux jeunes qui parlent de la radicalité qu'ils ont vécue et de comment ils sont laissés prendre par l'engrenage et la force mentale et intellectuelle qu'il faut pour, un, s'en rendre compte, deux, s'en extirper et trois, savoir communiquer par rapport à cela.
Et oui, c'est toujours difficile tous ces cas-là, parce que, bien entendu, quand quelque chose ne va pas dans le monde, il n'y a pas qu'en Belgique, on a toujours tendance à trouver, encore une fois, j'ai dit le mot tantôt, coupable. Donc, bien entendu, tous ces gens-là, et notre jeune en question, eh bien, on vire facilement à croire que tous les malheurs qui arrivent, c'est à cause des autres. Et si les parents avaient déjà eux-mêmes ces valeurs-là, que c'est à cause de l'autre, ben, c'est tout à fait logique que lui, à un moment donné, il ait pensé la même chose. D'ailleurs, surtout ce virage à droite, c'est tellement d'actualité, regardez, notre Europe et tout. Comme on est insatisfait, dans n'importe quel domaine, les insatisfaits sont toujours plus dangereux que les autres.
Un préjugé pour toi, Dounia, ça signifie quoi? C'est quoi un préjugé?
C'est tout d'abord une idée qu'on se fait de l'autre et qui peut être nourrie par des petites choses qu'on a vécues avec ces gens-là qui tiennent le préjugé.
Et comment ça peut affecter l'adolescent dans sa construction?
Parce qu'il se construit avec des idées qui sont peut-être pas vraies, parce qu'il n'a pas rencontré les personnes en question. Ça peut vraiment, il peut se construire en étant dans une illusion finalement. Il n'y a peut-être rien de vrai. Il y a des gens qui se construisent avec des idées qui ne sont pas vraies dans le terrain, dans la réalité. Et c'est triste parce qu'ils passent peut-être à côté de quelque chose.
Et en tant qu'éducatrice future, en tout cas, c'est quelque chose auquel tu tiens, justement d'éveiller peut-être un peu et d'accompagner.
Ouais. Oui, clairement. J'essaierai toujours d'ouvrir un espace de parole et faire rencontrer des gens entre eux. Je pense que c'est important. Moi aussi, comment dire, je suis arabe, d'origine marocaine, je suis voilée. Du coup, je pense aussi qu'il y a des préjugés quand on me rencontre. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mes stages, dans des voyages, dans des services civiques. On me disait toujours « Ah, mais je pensais pas que... » que vous étiez comme ça, ou tu m'apprends beaucoup de choses, ce soit sur le pourquoi tu portes le voile, le pourquoi du comment de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de préjugés qui tombent. Donc oui, je suis en plein dedans, moi. Surtout qu'en tant qu'éducatrice, je pense que je serais déjà moi dans ce truc-là de rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou qui ont des préjugés sur l'image de ma personne. Pas sur ma personne, parce que c'est pas moi. Enfin, les préjugés qu'ils auront ne sont pas forcément ce que je suis réellement. Et je pense que déjà, voilà, comme je disais, déjà moi, en rencontrant les gens, je pense qu'on sera déjà dans une rencontre et dans une ouverture. En tout cas, j'essaierai d'amener ça.
Un préjugé, c'est partir dans la vie avec des étiquettes sur autrui. C'est-à-dire que quand on va voir une personne, selon ce qu'elle va nous transparaître au premier regard, on va avoir des a priori. Et on va dire, OK, je te mets dans tel groupe, et dans tel groupe, tu es censé agir de telle façon. Au final, c'est quelque chose d'assez proche du stigmate.
Comment dire son opposition face à des préjugés au sein de sa propre famille?
En fait, déjà, c'est très compliqué de se rendre compte qu'on agit selon des préjugés qu'on nous a inculqués. C'est prendre une certaine distance par rapport à ça. Pour ça, si je peux me permettre, je vais parler un peu plus personnellement d'expérience. Moi, je viens d'une famille ouvrière, mais aussi et surtout très forte d'extrême droite. Donc, il a été très dur de m'extirper. Il m'a fallu longtemps pour me rendre compte qu'on parlait de racisme, en fait, et que c'était pas normal d'être dans une cave à écouter des chants qui sont pas très chouettes avec des personnes qui ont des idéaux pas très chouettes non plus. Je me suis rendu compte à quel point c'était très dur de s'extirper de ça. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte en fait que c'était pas normal ce que je vivais. Que c'est pas normal comme façon de penser, c'est pas normal la violence qu'on essaie de m'inculquer envers autrui alors que je connais rien d'eux. C'est pas normal les préjugés que j'avais. Je venais d'une petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Hein, donc c'est très difficile. Donc comment s'extirper de ça dans sa famille? J'irais avant tout, c'est exercer son esprit critique par l'école, par les activités qu'on a en dehors de la famille, se rendre compte des différences du coup, de la multiculturalité, de se dire, bah tiens, en fait, cette personne, elle agit pas du tout comme on me le raconte dans ma famille. C'est bizarre. Mais ouais, je vais me poser d'autres questions derrière. Ouais, ça demande un effort. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi un effort intellectuel. Ça demande du temps, tout simplement, que parfois on n'a pas. Et ça demande aussi de le vouloir, tout simplement. La volonté est quelque chose de très fort là-dedans. Et on n'a pas nécessairement la volonté de remettre en question. C'est très facile de remettre la faute de ce qui nous arrive sur autrui.
Je pense qu'en tant que parent, on a une responsabilité sur ce qu'on inculque à nos enfants, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je pense que la vie inculque les gens. Et je pense que les parents sont là pour venir, pas filtrer, mais un petit peu, oui, filtrer un peu les bonnes et les mauvaises idées qui sont inculquées à ces enfants. Moi, par exemple, mes enfants, si... Je vais leur inculquer des valeurs. Et si à la maison, il y a des valeurs qui sont extrêmes et qui sont vraiment là, qui vont finalement les rendre malheureux et pas ouverts au monde, c'est sûr que je vais leur en parler et leur dire de ne plus croire à ces idées-là parce qu'elles vont juste venir les rendre plus malheureux et les bloquer dans leur vie, dans les rencontres et dans l'approche à l'autre, quoi.
Si à un moment je deviens papa, je pense que c'est clairement quelque chose que je mettrai un point d'orgue dessus, c'est d'essayer de transmettre des valeurs d'ouverture à mon enfant. C'est de dire, il faut que tu partes avec le moins de préjugés possible envers autrui. J'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on va totalement combattre les préjugés. C'est toujours c'est un mot à la mode, hein, mais on est toujours en déconstruction, mais on n'est jamais totalement déconstruit.
Dans l'extrait, on entendait parler de radicalité.
Oui.
Qu'est-ce qui peut favoriser ça, à ton avis ?
Le fait de ne pas rencontrer l'autre. Je pense que c'est important que ça se passe. Même dans un groupe d'amis, il est important de discuter, d'avoir plusieurs personnes de plusieurs origines, de plusieurs idées politiques, en règle générale. Donc oui, je pense que rester avec les mêmes personnes, avec les mêmes idées, quand on a notre famille qui pense de la même manière, on a des amis qui pensent de la même manière, on est dans un groupe de jeunesse ou dans un groupe... peu importe qui pense de la même manière, je pense que oui, ça accroît drastiquement les idées. On a l'impression d'être dans le beau parce que tout le monde pense de la même manière, donc oui.
D'après toi, est-ce que la colère, ça peut provoquer le refus de l'autre aussi ?
Je pense que ça part de là même. C'est qu'on a une colère assez grande de l'autre. On pense que l'autre est à l'origine de nos souffrances, donc oui, je pense que la colère est vraiment le moteur.
Alors pour moi, ce qui peut favoriser la radicalité, c'est une certaine forme de violence déjà. C'est de dire qu'on subit une violence qu'on n'arrive pas à expliquer. Et on doit chercher un responsable à cela. Cette violence, elle peut être familiale, elle peut être sociétale, elle peut être institutionnelle, elle peut être émotionnelle, ça peut être le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire peut apporter énormément, par exemple, de violence interne, de sensations de « mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça ?» et « pourquoi on me fait ça à moi ?» Et cette colère, on ne sait plus où la mettre. Et du coup, ça, pour moi, c'est une forme de radicalité très forte qu'amène le harcèlement scolaire. Je pense que beaucoup de personnes qui se radicalisent dans leurs idées, de manière générale, c'est dû à un certain harcèlement scolaire, par exemple. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a du mal à en parler à la maison, on a du mal à en parler à des intervenants, on a du mal à trouver de l'aide, du coup... On essaye de se réfugier dans ce qui est le plus simple. Et le plus simple, c'est de dire que c'est quelqu'un d'autre qui est fautif. C'est pas moi la faute, c'est quelqu'un d'autre. Voilà.
Moi, je pense, les personnes comme ce jeune qui s'est fait harceler, je pense que rentrer dans une certaine radicalité, c'est le processus un peu. Je pense qu'il fallait passer par là. Il fallait passer par cette colère, cette radicalité, ce rejet de l'autre, pour finalement se rendre compte que c'est pas forcément le bon, finalement. C'est pas en étant dans le rejet de l'autre qu'on est forcément plus heureux. Moi, je les comprends. Moi, je les comprends pourquoi ils ont réfléchi comme ça, pourquoi ils ont pensé ça. Et j'admire beaucoup leur cheminement réflexif, finalement, parce que, si je comprends bien, ils sont plus dans ce dynamisme-là de... Donc oui, je pense qu'il y a des personnes, ils vont tomber dans cette colère, dans ce refus de l'autre, à un moment donné dans la vie. On est un peu tous en colère à un moment donné, on en veut tous à des personnes, et il y a des gens qui sont tellement en colère qu'ils tombent dans cette radicalité-là, et je la comprends. Mais il ne faut pas rester dans ça. il faut que les personnes, et notamment je pense que c'est là où les éducateurs peuvent venir accompagner ces jeunes-là, c'est de parler à la personne qui est dans cette radicalité et de lui ouvrir le champ des possibles. Je pense que c'est dans ce point-là que l'éducateur peut venir faire changer les choses. C'est de pas nous-mêmes de se dire, ah ben, ils sont dans des extrêmes, donc on va pas leur parler. Je pense que les gens qui sont dans cette ouverture au monde et aux autres, ils ont le devoir d'aller vers ces gens-là et de parler avec eux.
Ce qui me semble important à retenir dans ce second épisode, c'est d'être plus attentif à la souffrance, parce que celle-ci peut pousser à désigner des coupables. Que l'insatisfaction, la colère, la tristesse tendent à abîmer l'idée d'un vivre ensemble et peuvent être le moteur vers des formes de radicalité parce qu'il faut trouver des responsables. Questionner les préjugés au sein de ces groupes d'appartenance, comme la famille, les amis, les collègues, c'est souvent nécessaire. Il est donc important d'encourager des espaces de parole multiples, d'exercer son esprit critique, de questionner l'environnement social des jeunes, notamment l'école, et de valoriser le travail social.
Tout ce temps qu'il nous faut pour y voir quelque chose. Mais nous avons saisi que les saisons viraient. L'oracle est pris de court, ça n'est plus un secret. Que l'iceberg transpire et la dune apparaît. Nous n'irons bien qu'avec les autres. Nous n'irons loin qu'avec les autres. On se parlera mieux sans lance-flamme dans les yeux. Hache plantée en terre, remballer la vipère sans regarder à la dépense. On se répandra en nuances. Nous n'irons bien, nous n'irons loin qu'avec les autres. Nous n'irons loin qu'avec les autres. On se surprendra à penser contre soi-même. Quelquefois, nos couleurs primaires se teinteront d'un beau gris vert, d'un rose orangé. L'histoire continuera, on n'en voit pas la fin. Partout on bâtira pour abattre demain.
C'est très important à savoir, ça dépend dans quel état d'esprit on apprend une chose en fait. Moi, quand j'ai appris la religion dans un état d'esprit négatif, c'est-à-dire la haine, la colère, l'injustice, tout ça, ben, toutes les interprétations que je voyais sur la religion, c'était dur, strict, un peu violent des fois. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à rentrer dans le plus vif du sujet, à commencer à fréquenter des groupes, tout ça, à découvrir un peu cette violence. C'était plus un sentiment de besoin d'appartenance. J'étais en crise identitaire, tout ça en fait. À cause du vécu que j'ai eu, je n'avais pas su me développer normalement en tant que un jeune adolescent en fait.
L'extrême droite, tout autant que l'extrême gauche, leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et donc, ces personnes qui ne savent pas quoi voter, qui sont un petit peu perdues, on leur tend directement une solution. On dit, votre malheur, c'est ça, et on peut le régler. Et donc, pour moi, c'est une partie de gens en colère qui, oui, certains se disent que oui, les étrangers, c'est le problème, et il y en a qui ne savent pas. Et sauf qu'on leur dit, c'est ça, et on a la résolution du problème. Donc pour moi, c'est une part de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas... quel est le problème, et une partie de personnes qui sont en colère, quoi.
J'avais besoin d'une accroche face à ma faiblesse. C'était la religion. Justement, je me suis accroché à la religion pour ne pas flancher, pour avoir ce rôle de chef de famille, en fait. C'est devenu aussi une faiblesse dans le sens où je ne l'ai pas bien pratiqué, en fait, à cause de mon état d'esprit, bien sûr.
Pourquoi tu penses ne pas l'avoir bien pratiqué ?
Parce que je l'ai étudié dans un état d'esprit négatif. Et donc ma pratique était violente et négative.
Violente contre toi, contre ta famille, contre l'État, contre les gens autour de toi ?
Contre l'État et le peuple.
Et pourquoi cette haine liée à cet apprentissage de cette radicalité
C'était à cause du parcours que j'ai eu, tous les refus à gauche, à droite que j'ai pu recevoir, le fait d'avoir habité à la rue, par exemple, avoir beaucoup déménagé, avoir été exclu de plusieurs écoles, par exemple, suite à des bagarres, par exemple.
Ta colère, parce que ça t'a accompagné longtemps, ça.
La colère, la haine. En fait, c'était surtout le sentiment d'injustice. L'injustice, je ne supporte pas ça. Et quand j'ai commencé à rentrer dans la religion, je me suis reconnu dans certaines propagandes, en fait. Des peuples opprimés, tout ça. Et c'est là que c'était une forme d'endoctrinement, en fait. Et j'ai été endoctriné par des propagandes, tout ça.
Ce sur quoi tu dois travailler et qui t'est reproché, ce sont ces trois choses-là, c'est ça ?
Oui, donc c'est menace d'attentat, parce que... en fait, je voulais me venger sur ce qui m'était arrivé à l'école, dans mon école. Et donc, j'avais projeté de commettre une tuerie de masse dans mon école. Ce que je n'ai pas fait, mais j'y avais pensé. Il y avait des traces de messages sur mon téléphone qu'ils ont pu intercepter et donc m'arrêter avant.
Ton intention, si c'était vraiment ça, te procurer une arme puis d'aller à l'école,
oui.
Et de l'utiliser contre ceux qui... Qui tu étais en colère, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Je voulais aller sur un champ de bataille pour mourir. Ouais, c'est vrai. Je voulais... En fait, je ne me plaisais pas dans cette vie, en fait. Je ne me sentais pas appartenir. J'étais quelqu'un de... Enfin, je le suis toujours. Je suis quelqu'un de très mélancolique. Je pense énormément à la vie. Ce qui est bon, ce qui est très mauvais. Ce que ça peut apporter. En fait... Je ne me reconnais toujours pas dans ce monde, ce peuple, je dirais, ou ce lieu d'habitat, ou ce lieu de demeure. Donc moi, à l'âge de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans, je voulais aller sur un champ de bataille. Par exemple en Syrie, dans un premier lieu, je croyais au début que je voulais aller sur un champ de bataille, aider le peuple, et que pour ça, aider le peuple opprimé. Mais la principale raison, c'était parce que je voulais mourir et que je n'étais pas heureux, en fait.
«
Et beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet, beaucoup de manque d'appartenance en ce monde finalement. Et du coup, toute cette souffrance est nourrie par la haine de l'autre. Mais je pense que le fait qu'ils voulaient tous les deux faire du mal n'est pas la raison première. Ils ne veulent pas faire du mal à proprement dit à ces personnes-là, mais c'est parce qu'ils sont très... C'est parce qu'ils souffrent, et c'est parce qu'ils veulent mourir, parce qu'ils ne se sentent pas très bien, en fait. Donc moi, je vois là vraiment une raison assez profonde à tout ça. Je ne vois pas l'acte en lui-même, mais je vois ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est un peu ce qui les réunit tous les deux.
Puissant, hein. J'ai beau, avec les deux autres extraits, avoir dit que je suis si heureux de voir tout le chemin qu'ils ont parcouru. Il y a quand même une tristesse et une colère aussi de mon côté de me dire que ces deux jeunes, avec de telles ressources, et me dire qu'ils en sont arrivés à pouvoir exprimer cela, ça ne peut que répercuter une idée d'une société un peu malade, d'une société qui ne fonctionne plus, qui a du mal à créer du lien. Qu'est-ce qui peut amener un jeune à penser, si jeune, il n'y a pas d'âge pour penser à ça, mais je veux dire, c'est encore plus choquant quand c'est si tôt, à mourir et sur le champ de bataille, d'un côté, de l'autre, de se venger et de faire passer la vie d'autrui comme lambda, au point de pouvoir passer à la forme la plus extrême de violence et tuer des gens, par pure colère, par pur endoctrinement. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser à ces personnes derrière, en fait, qui endoctrinent ces jeunes, à ces personnes qui jouent de ces émotions pour leur propre intérêt. Moi, c'est ça qui me fait peur actuellement, c'est de me dire que la radicalité, elle est partout. Et c'est bon à penser, avec les réseaux sociaux qui veulent faire passer des messages pour leur propre intérêt très violents. Ils sont de plus en plus présents, on les écoute de plus en plus, on les remet de moins en moins en question. Et en fait, je trouve que la société se leurre en ce moment à se restreindre sur le radicalisme religieux. Mmh. On a une société qui se focalise beaucoup là-dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est minoritaire. Le radicalisme, il est généralisé dans notre jeunesse. Cette radicalité, on peut la trouver dans le religieux, dans les idéaux politiques. On peut le trouver dans les cités, par la masculinité, par cette surviolence, par le rejet d'autrui. On peut le retrouver dans la montée de l'homophobie, la transphobie aussi, qui sont des choses qui sont encore beaucoup trop présentes. Et même quand on voit la situation mondiale et qu'on ne reste pas qu'en Belgique, qui remonte, en fait, tout simplement, le rejet d'autrui. Tout ça, c'est une forme de radicalité. Tout ça, c'est sur le même fond pour moi. C'est-à-dire qu'on est en colère, on n'est plus compris par la société, on est en guerre contre cette société. On a envie de se mettre en guerre contre cette société. Et on est perdu. On a des pertes de repères et du coup, on se rattache à la première chose qui nous permet d'en trouver. C'est notre communauté. C'est cette bande de potes, etc., qu'on va suivre, c'est cette personne qu'on va écouter sur TikTok et qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre, en fait, au final. Ça reste le même fond, mais on va choisir la forme qui nous va le mieux pour l'exprimer, cette radicalité. Mais on a une jeunesse, je pense, qui se radicalise énormément en répercussion à une société qui va de moins en moins bien.
Oui, le premier extrait, donc, il parle un petit peu de la politique, en quelque sorte, et donc... Comme il dit, et là je suis d'accord avec lui, donc comme toute cette masse de gens qui n'ont pas d'opinion personnelle et qui ne savent pas s'en faire une par eux-mêmes, mais bien sûr, quand on lit les programmes des partis politiques, ben, ils parlent, ils disent ce que l'interlocuteur a envie qu'on dise. Donc bien entendu, ceux qui ne réfléchissent pas, ils mordent à l'hameçon. L'autre... Alors ça, c'est très émouvant. C'est qu'à un moment donné, lui, eh bien, il veut venger aussi. Enfin, il a un esprit de vengeance déjà au départ, mais il se met plutôt dans la religion. Mais ce qu'il a dit, quand il va aux réunions et qu'il lit donc les écrits, eh bien, il les aborde déjà en espérant trouver là-dedans des choses. Eh bien, comme... La Bible, c'est la même chose. Dans tout ce qui est écrit concernant toutes les religions, il faut les lire au deuxième ou au troisième degré, parce que tout ce qu'on raconte, on peut très bien les interpréter de plusieurs manières. Donc lui, comme il est dans la détresse, il lit tout ça et il ne voit dans tout ça que tout ce qui est donc esprit vengeur des fois. Et donc c'est comme ça qu'il l'a très bien dit. Au fond, il voulait aller au combat. C'était pas tellement pour défendre, c'était surtout pour mourir. Et ça, je trouve que c'est une phrase très profonde. Très profonde, parce que j'ai encore des écrits que quand j'étais très jeune, eh bien, j'avais des pages. À toutes les pages, il n'y avait que ça. Une page, je voudrais mourir. On peut tourner la page, vous lisez, je voudrais mourir. Troisième page, voilà. Donc, moi, je suis à même de comprendre ça. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et lui, quand il arrive au combat, eh bien, il se rend compte que tout compte fait, c'était pas sa vraie place non plus. Mais ce qu'il voulait avant tout, c'était mourir. Mais lui, il a eu l'intelligence, car il est très intelligent. Il a pu voir que tout compte fait, ça ne lui apporterait pas grand-chose non plus. Et je crois que c'est un garçon formidable.
Nous autres adultes, sommes-nous toujours des exemples pour la jeune génération ?
On est des exemples, mais pas toujours les meilleurs. Je trouve que l'adulte est aussi très radical dans sa manière d'être. Moi-même, je pense que je peux être radical sur beaucoup d'idées. Hein. Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes, dont un jeune qu'on a entendu parler, qui parle d'extrême-gauche. Je sais qu'il y en a certains qui me prennent pour quelqu'un d'extrême-gauche, le wokiste de base, etc. C'est une forme de radicalité, mais c'est aussi parce qu'on est en colère. On est en colère aussi, on doit faire attention à ce qu'on répercute par rapport à ça aux jeunes. C'est pas notre colère qu'on doit insuffler à ces jeunes. C'est pas notre frustration par rapport à la société. Ce qu'on doit insuffler, c'est l'espoir, en fait, tout simplement. Même si on n'y croit pas. C'est une phrase très, très dure à dire, hein, mais de temps en temps, j'y crois pas. Mais je dois croire aux générations futures. C'est la seule chose qui est importante. Je me dis, s'il y a même 0,1% de chance qu'ils changent quelque chose, je dois y croire, et à 200%. Et en tout cas, je dois le laisser paraître que j'y crois à 200%. Et c'est ça, notre travail d'adulte. C'est de dire, non, nous, on croit en vous. On croit au fait que vous pouvez changer, pas juste vous-même, mais ce qui vous entoure. Et ça, je pense que c'est notre travail d'adulte. Mais c'est dur, de temps en temps, de faire la part des choses.
Les jeunes ne sont pas le problème, ils sont la solution.
Bien entendu. Non, c'est plus... Je suis encore jeune, hein, je pense, voilà, j'ai dans la trentaine. Mais je pense déjà que c'est plus tellement à moi à changer le monde. Moi, je suis là pour essayer de donner envie aux gens de changer le monde. C'est ça mon but maintenant, c'est cette jeunesse. Et c'est ce qui me donne un peu d'espoir, en fait, sur l'avenir. C'est de voir une jeunesse qui est aussi plus militante, qui a envie de faire changer les choses. Il y a quelque chose derrière tout ça. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est dans un moment où il faut lutter. Et lutter, c'est pas mal. C'est très bien, même, de lutter. C'est de dire qu'il y a des outils. Moi, je vais donner un exemple très concret. C'est que j'ai eu un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui a éclaté un moment lors d'une activité. Parce que, voilà, il a trouvé que l'intervenante avait été un peu raciste. Et on a senti beaucoup de colère contre les personnes qui sont pour le colonialisme à Bruxelles, avec les statues. Et du coup, il a parlé énormément d'anticolonialisme. L'intervenante était super, etc. C'est juste qu'il s'était mal compris, ça s'est très vite apaisé. Mais moi, après, avec ce jeune, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un travail avec. Et je lui ai dit, bah, pourquoi tu ne milites pas pour l'anticolonialisme sur Bruxelles, si ça te tient tellement à cœur, si tes origines congolaises te prennent tellement à cœur? Et du coup, je l'ai ramené vers plusieurs associations. Et du coup, il a fait une balade décoloniale sur Bruxelles. Il a redécouvert Bruxelles autrement. Et maintenant, il a envie de... Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il m'exprimait. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Mais il exprimait son envie de devenir militant pour cette cause-là. Pour dire, bah, OK, bah, en fait, il y a des bons vecteurs pour canaliser cette colère et pour faire changer les choses. Ben voilà, ça, on peut l'insuffler aux jeunes. Chacun avec sa spécialité, on peut insuffler ce petit côté militantiste.
D'abord, il faudrait déjà que les parents montrent l'exemple, qu'ils s'occupent des autres. Bon, il faut voir clair le plus vite possible. Mes problèmes, c'est que même, je vais dire, dans certains établissements scolaires, et même dans des associations sportives, enfin, dans tout ce monde qui gravite, je vais dire, autour des tout jeunes, eh bien, ils devraient être beaucoup plus attentifs. Et alors, si on est rébarbatif, mais un jeune ne va pas se confier à quelqu'un qui sait déjà d'avance qu'on va le remballer. On va dire, oh ben non, qu'est-ce que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, le mot de notre époque, je n'ai pas le temps.
Je pense, moi, l'idéal, c'est de créer peut-être, comme vous disiez, de la prévention et de la rencontre entre les jeunes. Donc, je pense dans les écoles, premièrement. Et dans tous les groupes de jeunes, que ce soit chez les scouts, dans les écoles, dans des équipes de sport, dans tout ce que les jeunes, dans les réseaux,
mais
les réseaux sociaux. Je pense que oui, il y a de la prévention à faire dans tout ce qui touche aux jeunes. Et de leur dire que c'est important d'être à la rencontre et dans l'ouverture et de discuter, de faire discuter ces jeunes entre eux. Je pense qu'il est important.
Si je me sens bien, j'ai envie que les autres aillent bien. Je sais davantage me préoccuper de l'état du monde.
D'accord. Je pense qu'il faut d'abord se sentir bien avec soi-même pour réussir à insuffler aux jeunes cet état d'esprit, par exemple. Je prends cet état très concret, mais moi, je vais dire quelque chose qui est un peu dur, c'est que l'état des personnes travaillant en IPPJ n'est pas très bon en ce moment, il faut le dire. On se sent mal. Les adultes ont beaucoup de mal en ce moment. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de... On a peur avec comment la société évolue. On a peur en voyant les cas qu'on récupère, qui se diversifient.
Les situations des jeunes.
Des situations des jeunes, oui. Aussi sur ce qu'on nous donne pour pouvoir bien les encadrer. Mais moi, je vois mes collègues, éducateurs, formateurs, éducatrices, psychologues, etc., etc., qui ont de moins en moins de moyens, qui ont de plus en plus de paperasse, qui ont de moins en moins de temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire avec les jeunes, pour faire un vrai encadrement. Et je me dis que ces personnes-là sont de plus en plus frustrées, sont de moins en moins bien. On vient parfois avec des pieds de plomb au boulot. Et en fait, dans ces conditions-là, comment on peut bien encadrer un jeune ? Et c'est pas la faute de mes collègues, ils font au mieux avec ce qu'ils ont et ils sont 10 fois plus courageux que je ne le serai jamais de réussir à faire ça. Mais du coup, il faut le savoir aussi que l'encadrement qu'on propose aux jeunes, si on traite mal l'adulte qui est censé le donner, bah, il va pas être adapté non plus. Et je pense que c'est important de mettre le point là-dessus.
Ce qu'il est peut-être important de retenir de ce 3e épisode, c'est qu'un sentiment de manque d'appartenance à notre monde peut favoriser et pousser à une souffrance énorme. Que dans une société qui ne crée plus assez de liens et qui ne prend pas assez soin de l'ensemble de ses jeunes, cela peut favoriser la colère et le repli sur soi. Favoriser de petites radicalités multiples aux dépens de ce vivre ensemble. Il faut donner les moyens aux plus jeunes de changer ce monde, d'avoir le désir de s'impliquer dans une société plus juste, de lutter contre les inégalités, le repli sur soi, chacun avec sa spécialité. Et pour les préparer à cette tâche-là, ben nous, adultes, c'est de montrer l'exemple que l'on arrive à s'occuper des autres. C'est aussi se donner les moyens et être attentif aux structures d'accueil et permettre aux travailleurs sociaux d'aller bien. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, I cried.